Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Allez, aujourd'hui, on chausse un béret et on glisse un camembert dans son birkin. Il est l'heure de faire honneur au cliché de la série du moment. Jingle. Cette semaine, j'ai du pain sur la planche. Et du pain rassis, c'est moi qui vous le dis. J'ai dû voir tout un tas de contenus ciné-séries pour cibler ce dont il serait le plus pertinent que je vous parle dans ce podcast en cette fin d'année. J'ai d'abord vu Caravage, qui, à l'exception du clair-obscur quasi pictural permanent dans lequel il est filmé, m'a donné une constante envie de me défenestrer. Aussi, j'ai vu Glass Onion, le nouveau film de Rian Johnson avec notre bon enquêteur Benoît Blanc. Et autant j'avais pris un certain plaisir devant À couteau tiré, autant j'ai trouvé ce nouveau volet très poussé avec des personnages qui n'arrivent pas à la cheville de ceux campés par Ana de Armas et Jamie Lee Curtis, pour ne citer qu'elle. Et enfin, j'ai bien sûr bingé Emily in Paris saison 3, car j'adore avoir mal à ma France. Finalement, j'ai choisi de parler cette semaine de cette dernière, donc Emily in Paris, de manière stratégique, car je savais que ça ferait plus cliquer que Caravage, et c'est bien normal. Alors qu'en vrai, le seul contenu audiovisuel que j'ai vraiment aimé cette semaine, c'est le chapeauté de... Et il n'y a même pas de blague dans cette phrase. J'ai vraiment kiffé, genre premier degré. Je suis sortie de là, j'ai eu envie de commander des mini-costumes à mes chats, et puis bon, le bon sens m'a rattrapé, quoi. Revenons-en à nos moutons. Si vous n'avez jamais regardé Emily in Paris, sachez que c'est la série qui réussit, et c'est très rare, le grand chelem des stéréotypes sur notre belle capitale et les gens qui la peuplent. Un béret vissé sur une tête, un camembert dans un sac à main, des clopes en veux-tu, en voilà, et même en guise de petit déjeuner, hein, des triangles amoureux, des chefs obsédés par les cuissons des steaks et autres concierges désagréables. Bienvenue dans le Paris d'Emily, qui conjugue les clichés d'hier avec les thématiques d'aujourd'hui. Comprenez Instagram, vraiment, c'est tout. Emily in Paris, c'est l'histoire d'une jeune américaine du Midwest qui s'installe à Paris dans une chambre de bonne, un T3 en vrai, pour occuper un poste dans une agence de marketing de gros connards. Elle est censée apporter son point de vue américain à une bande de publicitaires acariâtres et libidineux qui ne bossent jamais avant 11h et prennent 3 heures de pause, car c'est bien connu, les Français sont de grosses feignasses, incapables de se lever avant d'avoir avalé 14 croissants. Et alors vous verrez, c'est très étonnant. Emily ne prend jamais le métro pour aller au bureau de poste de la Chapelle ou manger un kebab à Porte de Vanves. Pourtant, c'est surtout ça Paris, la galère globale et aussi des transports qui sentent le fion avarié. Croyez-en mon expérience, j'ai vécu trop longtemps à Porte de Clignancourt et j'ai pris la 4 quotidiennement pendant 10 ans. Bon, ça c'était pour l'arène générale de la série, celle que Darren Star, le créateur de Sex and the City, a façonnée dès la première saison. Mais sinon, quoi de neuf dans ces nouveaux épisodes? Eh ben écoutez, dans la saison 3, il se passe précisément la même chose que dans les deux premières saisons. En vrai, moi qu'on fabrique une série bien kitsch qui se moque des Parisiens, ça me dérange pas, au contraire, je trouve la velléité un peu amusante, quoique pas très originale. J'aime l'idée qu'on catapulte une américaine super naïve à Paris et qu'elle y vive le faste et porte que des fringues de créateur tout en gagnant un SMIC, parce que c'est tellement loin de la réalité d'un Paris en pleine inflation où tout le monde galère à payer ses factures et à s'acheter des pâtes, un Paris bourré de personnes sans domicile fixe et de migrants qu'on laisse mourir dans les rues, que le programme s'installe fondamentalement dans l'ubuesque, donc à la rigueur, pourquoi pas? Moi, ce qui me dérange davantage, dans une série qui coûte si cher et pour laquelle on met tant d'efforts par ailleurs, notamment dans le stylisme des personnages, c'est surtout l'inexistence d'une vraie progression narrative. Ça n'est pas normal, bon sang, que les enjeux de la première saison soient toujours ceux de la troisième. Dans ces nouveaux épisodes, Emily est encore tiraillée entre Madeleine, sa bosse américaine, et Sylvie, sa bosse française. Elle hésite à bosser pour l'une ou pour l'autre. Elle est encore tiraillée entre son mec ultra beau gosse, là insupportable, et fucking Gabriel, le même gars que d'habitude, qui s'intéresse pourtant davantage au chalumeau qui lui sert à gratiner sa crème brûlée qu'aux beaux yeux d'Emily. Elle travaille encore pour le le succès du même styliste, hein, Pierre Cadeau. Vraiment, je comprends pas dans quel monde vivent ces Américains pour croire que ce gars-là est un gars stylé, mais bon, anyway. Elle plante encore un couteau dans le dos de sa meilleure pote en faisant les yeux doux à son gars. Et ben voilà, c'est à peu près tout et c'est à peu près encore la même chose, quoi. Hormis les bisbilles entrepreneuriales de Sylvie et Madeleine, dont on se branle quand même fondamentalement, mais qui soulèvent vaguement le sujet de la difficulté à créer une boîte, la série n'ausculte aucune nouvelle thématique, étirant à l'infini les concepts superficiellement traités de la saison 1 et de la saison 2. Résultat, le programme s'essouffle au bout de 14 secondes. C'est dommage quand même, parce qu'on s'est bouffé, bon, bah, 10 épisodes. Surtout quand l'arche de cette saison se termine par ce à quoi tout le monde s'attendait. Alors, je vous spoil pas, hein, si vous n'avez pas terminé la série, mais en vrai, si vous avez commencé, vous savez forcément comment ça se termine. Est-ce que c'est pas un comble, franchement, pour une série dont chaque saison... Est-ce que c'est pas un comble, franchement, pour une série dont chaque saison plafonne au top de Netflix ? Il n'y a finalement que pour le personnage de Mindy que les événements changent un peu, vu qu'elle se met à bosser pour une boîte de jazz et qu'elle largue son Merlan Free là pour sortir avec un gros connard millionnaire qui s'en bat les steaks de l'environnement et prend l'hélicoptère comme vous prenez la ligne 13. Donc franchement, tout ceci est à bâiller. D'autant plus, on va pas se le cacher, que si on reprend le cas de Mindy, elle chante tout de même super mal. Dommage vu qu'on l'entend chanter fucking tout le temps. Personnellement, si j'avais trouvé la première saison kitsch mais amusante, j'éprouve une certaine colère, et oui, je dis colère comme ça, à constater que personne n'a pris le temps, et c'est désolant, d'écrire un scénario. Donc ce que j'aimerais, au sortir de ce binge-watching acharné, c'est qu'on me rembourse les 3 semaines que j'ai passées dans ma vie à regarder les 3 saisons de cette série. Avec le fric que brasse le programme, ça devrait être possible. Allez Darren, je t'envoie mon rib, et joyeuse fête.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.